rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de rencontre avec l'un des évêques de notre province. Et pendant tout le mois de février, nous sommes accompagnés par Monseigneur de Kerimel. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
La semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'évoquer avec vous le sujet des douloureux et délicats des abus. Aujourd'hui, donnons-nous un peu d'air, un peu de joie, un peu de hauteur, je dirais. Et puis, prenons contact avec votre diocèse, ce diocèse de la Haute-Garonne, que vous avez eu l'occasion d'écouter en profondeur quand, il y a quelques mois, vous avez organisé une assemblée diocésaine, les 15 et 16 octobre dernier. En effet, vous êtes arrivé dans ce diocèse donc, il y a maintenant un an. Le synode sur la synodalité était déjà largement parti. Les conclusions, vous les avez reçues, mais vous n'avez pas pu avoir ce temps de prendre connaissance avec l'intimité de ce diocèse, avec de quoi il est fait, avec son... avec sa vérité, avec sa chaleur, avec ses personnes. Et donc vous avez convoqué cette assemblée diocésaine. Quel joie en retenez-vous? Quelle beauté, quel signe?
Donc nous avons vécu 48 heures ensemble, 800 délégués du diocèse. Et ce qui m'a frappé, c'est la joie et l'enthousiasme. Rien que le fait d'être ensemble dès le samedi matin, c'est ça qui est beau et très, très réjouissant pour moi, c'est de voir cet enthousiasme, les gens qui, dont certains m'ont dit « oui, je suis venu en traînant un peu les pieds, mais vraiment, je suis très heureux d'être là, etc. » Et donc, voilà, ça a été donc une vraie célébration, une vraie expérience de l'Église Famille de Dieu. Voilà, une expérience de famille, de grande famille, mais où on ne se connaissait pas, mais on se reconnaissait quand même comme frères et sœurs. Et il y a eu voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Il y avait donc tous les âges. On avait demandé à ce qu'on veuille à accueillir et inviter des jeunes. Et y compris des adolescents, dont certains m'ont édifié. Vraiment, j'ai été impressionné. Et puis, il y a eu une libre expression, et je pense que ça, c'était important dans les forums ouverts, où chacun pouvait proposer un atelier et constituer un groupe pour discuter du thème qu'il proposait. Et donc, ça donnait une grande liberté de parole qui me semble importante. Ça, c'est dans la suite aussi de la démarche synodale. Alors, la démarche synodale dans le diocèse, alors, c'est plus au niveau de l'Église universelle, donc, oui. mais donc ça a permis une liberté de parole. Alors, parfois, j'ai été un peu surpris par le résultat de la démarche synodale. Et en même temps, je me dis, c'est bien, les gens ont pu au moins s'exprimer, dire des choses. Et il y a toujours, même dans, si on n'est pas toujours à l'aise avec l'ensemble du compte-rendu, il y a toujours à creuser, à entendre des choses. Et ça, mon expérience épiscopale m'a fait comprendre cela depuis des années. C'est que même dans les personnes qui semblent vous critiquer... Eh bien, il y a toujours des choses à entendre. Et au fond, quand on relit même la synthèse diocésaine dans la démarche synodale universelle, je retrouve des éléments qui rejoignent tout à fait...
ce qui a été dit à l'Assemblée diocésaine.
Ce qui a été dit à l'Assemblée diocésaine. Mmh. Je retrouve des choses qui me tiennent à cœur, comme la place de la parole de Dieu. Tous les groupes synodaux avaient pris le temps d'invoquer l'Esprit Saint, de partager, d'écouter la parole de Dieu avant de partager. Je trouve ça très, très juste et très beau. Et donc, cet ensemble, si vous voulez, de cette longue écoute, du coup, des chrétiens du diocèse était nécessaire pour moi, parce que quand on arrive on dit mais quelles sont vos orientations, je répondais mais laissez-moi le temps d'écouter d'abord. Oui. de connaître
au bout d'un mois les orientations de Cézanne. Voilà, c'était un peu compliqué
voilà, on a eu donc le conseil épiscopal a eu l'ensemble de ce qui a été partagé à cette assemblée diocésaine. Et donc, à partir de là, j'ai écrit récemment aux prêtres pour leur dire les premières directions dans lesquelles je pensais avancer. et leur demander un retour aussi. Et voilà, mais ça a été une étape importante, et je dirais que c'est à cette assemblée diocésaine que j'ai senti que l'alliance entre le diocèse et son nouvel archevêque était scellée.
Hein, je pense que votre introduction, si je puis me permettre, n'y était pas pour rien, parce qu'elle a vraiment, elle vous a vraiment posé comme un père à l'écoute, vous l'avez dit tout à l'heure, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de... Vous avez expliqué quel homme vous étiez, quel prêtre vous étiez, dans quelle église vous avez été formé, et je pense que les diocésains ont été sensibles à cette honnêteté, à cette franchise, et je pense que derrière ça a pu effectivement libérer la parole.
Alors j'ai été très bien interviewé par, par Timothée, qui est journaliste ici à Radio Présence.
C'est gentil.
Donc, c'est effectivement, je ne savais pas du tout ce que ça allait produire, et je crois que ça a été un moment important, effectivement.
Et derrière, effectivement, l'organisation remarquablement bien gérée a permis, je pense, cette liberté de parole.
C'était impressionnant.
C'était impressionnant.
Impressionnant. Oui. L'organisation, on a respecté le timing. Oui. C'était remarquable, et sans être bousculé, stressé, nous avions le temps de nous rencontrer. C'était vraiment un très très beau moment.
Oui, absolument. Et donc là, vous en êtes à la phase où vous avez donc pris connaissance de tout, vous avez tout lu, vous avez réfléchi, vous avez posé les éléments, vous avez commencé à partager avec votre presbytérat vos premières intuitions, dont l'une, c'est ce que vous expliquez à Isabelle la semaine dernière, tourne autour de ces fraternités, et vous vous interrogez sur le sens et sur la pertinence de ces petits groupes de chrétiens qui vivent quelque chose de l'expérience du partage de la parole et de la vie communautaire, et vous étiez les pousser un peu plus loin peut-être.
Oui, en tout cas je veux insister sur ces fraternités qui me semblent une occasion vraiment de cheminer entre chrétiens. La messe dominicale ne suffit pas. Et je me souviens du témoignage en Isère où j'avais encouragé ces fraternités autour de la parole de Dieu, et de gens qui disaient, ben oui, avant on s'apercevait à la messe, et depuis on se reconnaît comme frères et sœurs, et puis comme nous sommes tous dans le même quartier, pour tel carême, nous avons décidé de faire quelque chose ensemble dans le quartier. Hein, donc ça donne une visibilité aussi à l'église dans des quartiers où il y a des chrétiens, mais il n'y avait pas de communauté chrétienne. Là, il y a une petite communauté chrétienne, et je rêve de cela dans tous les quartiers, bien sûr, des villes, mais aussi dans le monde rural, dans des villages où il n'y a plus la messe que quelques fois dans l'année. Eh bien, comment il y a une communauté chrétienne visible,
qui se reconnaît,
modeste, mais qui se reconnaît, qui se soutient. Alors, bien sûr, après, on se déplace pour participer à la communauté plus large, plus grande.
La messe reste le centre.
La messe reste le centre. Ça, pour moi, c'est très important.
La source.
Mais c'est la parole de Dieu qui va nous faire bouger. Parce que la parole de Dieu, elle va réveiller notre foi, elle va rallumer le feu intérieur, et du coup, on n'aura pas de problème pour aller à la messe, parce que ce sera une nécessité. La parole de Dieu, elle travaille en nous, et c'est elle qui nous conduit à l'Eucharistie. Dans le déroulé de la messe, nous avons le temps de la parole avant le temps de la prière eucharistique et de la communion. Et c'est une logique profonde. Et nous répondons, quand Dieu nous parle, nous lui répondons par notre acte de foi. Je crois. Et quand je dis je crois, ça veut dire je bouge, je me bouge.
C'est pas la première fois que vous nous parlez de la parole de Dieu. C'est un sujet qui vous tient vraiment
très,
à cœur.
Très important, parce que moi, j'ai fait une expérience très profonde de la parole de Dieu, vivante et efficace. Et j'ai vu dans des retraites qui consistait uniquement à mâcher la parole de Dieu, et bien j'ai vu comment le Seigneur agissait avec une profondeur, faisait sauter des portes de prison intérieures, éclairait profondément. J'ai vu des visages s'apaiser, des visages s'embellir au cours de ces retraites, parce que profondément pacifié par cette parole de Dieu qui est une parole d'amour. Hein, qui nous fait du bien. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la parole de Dieu, et que le pape François ait créé un dimanche de la parole. Ça nous dit aussi combien l'importance d'écouter. Ça ne relativise pas l'Eucharistie, évidemment. L'Eucharistie reste le sommet, la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais encore une fois, c'est la parole qui va nous conduire à l'Eucharistie.
On entend des initiatives dans cette paroisse de marathon de lecture, 24 heures de lecture en continu, par exemple.
Voilà, voilà. Tout ça sont des belles initiatives. Ouais, oui, ouais. Tout à fait.
Et donc, c'est à partir de cette grande communauté qu'est la paroisse, il y a la petite communauté et fraternité où on goûte ensemble à la parole de Dieu.
Voilà.
Et puis,
sans s'enfermer, la tentation évidemment, elles ont besoin d'être accompagnées, ces fraternités, sinon elles peuvent s'enfermer dans des petits clubs et tourner en rond. Et l'importance de l'articulation.
L'articulation avec la paroisse. Et aussi, vous pouvez peut-être renvoyer nos auditeurs, qui parfois sont un peu seuls, peut-être à cette expérience de l'oraison et du face-à-face avec Dieu au travers de la parole.
Bien sûr.
Qui
bien
reste
sûr.
Aussi un bien guide. Sûr.
Comment connaissons-nous Dieu ? C'est en l'écoutant, parce qu'il nous dit qui il est. Parce que voilà, Jésus-Christ nous révèle, nous a tout dit de la part de Dieu. Et donc, il faut prendre le temps d'écouter pour connaître Dieu et nous unir, l'aimer toujours davantage et nous laisser aimer par lui.
Merci beaucoup, Monseigneur.
Rencontre avec nos évêques.